RMC, After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
After Galaxy, saison 2. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Merci d'être avec nous, de nous suivre. N'oubliez pas de nous suivre d'ailleurs sur votre appli pour pas manquer les prochains épisodes. Alors, vous savez quoi, la rédac, on s'est maté. Le docu Netflix, c'est le Caso Figo. Et on s'est dit, ça serait pas mal de se faire un truc sur cette thématique. Les joueurs qui basculent d'un club à l'autre, qu'on traite de traître, justement, finalement. Et puis, on s'est dit, on va se faire ça avec nos drôles de dames, ces autres transferts qui ont marqué nos drôles de dames. Et aujourd'hui, on va repartir dans les années 80 en Allemagne et vous raconter comment et pourquoi le transfert de Lothar Matthäus du Borussia Mönchengladbach vers le Bayern Munich a enflammé le foot allemand. Allez, on plonge en 1984.
Ich spreche, ja? Ja? Sigi!
Liverpool are European champions! What joy! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught. And Merseyside jubilant.
Le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, après que le Deutschland über alles ait retenti sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand était joué à Verdun.
Police Academy. Bemals die Polizeierlaut.
Voilà, c'est terminé. Ah oui, je veux dire, victoire de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Première victoire française dans une compétition de cette envergure. Ça y est, on l'attendait depuis le début de l'histoire du football.
Ouais, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Rache-toi de là, t'es pas de ma bande. Quand toi tu pues et marche à l'ombre.
Et ouais, mais reste quand même avec nous dans ce podcast After Galaxy, petit condensé de cette année 84, magnifique prod de notre réalisateur Paul Vexio. Et en 84, lui, il était déjà beau, chevelu et sportif, c'est notre Polo Breitner. Salut Polo.
Salut mon cher Nico.
Qu'est-ce que tu faisais en 84, Polo, toi?
Alors, vous avez cité l'Euro 84, donc moi j'ai écouté la finale à la radio parce qu'on n'avait pas de télé en vacances, donc j'avais pu suivre cette fabuleuse demi-finale contre le Portugal à la télé, j'avais trouvé un troquet, mais pas pour la finale, et donc j'avais suivi à la radio, et c'est plus tard que j'ai vu les images, beaucoup plus tard. Et puis sinon, donc j'avais 13 ans et j'étais dans un lycée militaire depuis quelques années. Donc j'avais déjà appris à tirer au FAMAS d'ailleurs à l'époque, donc les brodequins et le tri, je connaissais depuis quelques années et j'y suis resté jusqu'à mon bac.
Magnifique. Je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast sur toi, Polo. Là, on va se caler ça, un de ces quatre. Alors, en 84, Lothar Matthäus, lui, va entamer une nouvelle vie. Avant d'évoquer ce houleux transfert qui va le mener de Gladbach au Bayern, c'est qui Lothar Matthäus avant ce fameux transfert? Est-ce que c'est déjà une star du foot allemand en 84?
Ben non, en fait, il l'est médiatiquement parce qu'on sent qu'il a un potentiel énorme pour devenir une star mondiale. Mais quand on voit les résultats du foot allemand, si tu veux, c'est le petit jeune qui débarque. Il est alors très critiqué par la presse nationale, il est très critiqué par les anciennes gloires parce qu'il a des allures de star, il a les cheveux mi-longs, etc. Parce que certains, il a des références qui ne plaisent pas forcément au grand public. Il a, on l'oublie, en 1980. Blessé Grabowski, qui est le plus grand joueur de l'histoire de l'Eintracht Francfort, et ces deux équipes se rencontreront d'ailleurs en finale de l'UEFA. Et si tu veux, on le traite, moi je me rappelle très bien, Bertie Vogt, donc ancien grand joueur de Mönchengladbach et ancien sélectionneur de la Nationalmannschaft, qui disait de lui, finalement c'est un apprenti qui se prend pour un général. Et donc c'est quelqu'un qui, parce qu'il avait une grande gueule déjà, il faut bien comprendre que, pour le dire simplement, il va prendre le capitaine de la sélection allemande seulement en 1987 et il va avoir une croissance dans le monde du football relativement lente par rapport à d'autres. Le problème, c'est ce qu'on oublie, c'est les années 70 et on va dire jusqu'au début des années 80, le football allemand, il y a des stars qui sont largement au-dessus de Matthäus. Et Matthäus, c'est le petit jeune qui arrive.
Alors en 2015, Matthäus confie à la chaîne de la Bundesliga. Il expliquait notamment qu'étant jeune, son équipe préférée était le Borussia Mönchengladbach.
Ja, meine Lieblingsmannschaft war Borussia Mönchengladbach. In den 70er Jahren ist sehr, sehr erfolgreich gespielt, fünfmal Meister geworden, attraktiven Fußball gespielt und war dann eben auch damals ja, sehr glücklich, wie ich meinen ersten Profivertrag bei meinem Traumverein unterschreiben konnte.
Voilà, Matthäus qui explique qu'il n'avait pas vraiment d'idole quand il était gamin, mais il appréciait beaucoup Günther Netzer, le football attractif des Poulains. Raconte-nous, c'est qui ce Günther Netzer?
Alors Günther Netzer, c'est un des plus grands joueurs du football allemand. C'est aussi peut-être la première star au sens où on l'entend aujourd'hui depuis Georges Best, c'est-à-dire l'individu Günther Netzer qui fait la fête, qui a des grosses bagnoles. On disait à l'époque qu'il avait une nana dans chaque chaussette. Et Günther Netzer, c'était l'un des plus grands meneurs de jeu de l'histoire du foot, et en tout cas l'un des plus grands meneurs de jeu de la sélection allemande. Il avait juste un petit défaut, c'est qu'il avait un concurrent de Cologne, du club rival de Cologne, qui s'appelait Overath. Et donc, évidemment, Günther Netzer, qui a joué aussi au Real Madrid avec Paul Breitner, était l'un des plus grands joueurs de son époque, l'un des plus grands techniciens de son époque. Il avait les cheveux mi-longs, c'était les années 70, etc. Et il avait un style de jeu qui était un petit peu aux antipodes de ce qu'on pratiquait au Bayern Munich, par exemple. Donc il est tout à fait logique qu'un joueur comme Matthäus, même s'il est né en Bavière, s'intéresse à ce qui s'est passé dans les années 70, au début des années 70 en tout cas, à cette première génération des poulains de Mönchengladbach, emmenée évidemment par Günther Netzer.
Et alors justement, à 18 ans, il quitte le club de son enfance, hein, Matthäus, et il choisit d'aller à Gladbach, et à l'époque, il a déjà le choix, hein, pourtant.
Ah bah ouais, il est. On sait très bien qu'il est un futur talent, etc. Mais c'est lui qui en fait qui a décidé d'aller là-bas pour une raison aussi bien simple, c'est qu'il y a Jupp Heynckes qui est le coach là-bas, et Jupp Heynckes, qui était un ancien aussi grand joueur de Mönchengladbach, aime bien développer les jeunes. Et en fait, Mönchengladbach, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent d'ailleurs, et ce qui fait qu'ils vont baisser d'ailleurs dans le classement, plus l'argent, paradoxalement, plus l'argent va arriver, plus les clubs de football vont se professionnaliser, plus on va se rendre compte que Mönchengladbach finalement n'est pas un grand club allemand au niveau de la taille par rapport à leur succès et à leur histoire. Et donc il va partir là-bas. Jupp Heynckes d'ailleurs va avoir une relation très particulière, presque père-fils avec lui, et Jupp Heynckes disait très bien que je me suis jamais autant investi pour un joueur que pour Lothar Matthäus. Et d'ailleurs, il va expliquer son développement en disant, je voyais bien qu'il était super bon pour devenir un véritable meneur de jeu avec un volume de jeu extraordinaire, ce qu'on oublie un petit peu toujours avec Matthäus, mais il forçait dans les jeunes années de sa vie Matthäus à faire ce qu'on appelle le man-decker, c'est-à-dire celui qui allait qui devait jouer numéro 6 pour contrôler les meneurs de jeu. Et vous savez qu'à l'époque c'était le marquage individuel, il n'y avait pas encore le marquage en zone et tout ça, et donc en fait il passait son temps à courir après les grands champions tels Félix Magath ou des choses comme ça lorsqu'il rencontrait Hambourg pour apprendre le métier. Et c'est Matthäus et Jupp Heynckes avaient bien compris que le caractère de Lothar Matthäus est en allait en faire un futur leader, mais encore une fois, le grand public avait du mal à comprendre ce petit joueur arrogant qui pourtant était déjà excellemment bon.
Alors la première saison de Matthäus au Borussia Mönchengladbach est très riche en émotions. Alors une anonyme 7e place en championnat, mais une finale de Coupe de l'UEFA perdue face à un autre club allemand, c'est l'Eintracht Francfort, mais surtout son tout premier titre majeur, l'Euro 80 qu'il remporte avec la RFA face à la Belgique.
Vous allez pouvoir suivre dans un instant en Eurovision, en direct, Allemagne-Belgique, la grande finale de football.
Je sors ce joueur, attention c'est dangereux, tir et but de Rubech. Révélation belge, allemande plus exactement, et très joli but.
Van der Eyken et but, un but partout, tout est à refaire. Oh, un but de Rubech. Oh, le coup dur pour les Belges à 2 minutes de la fin.
Alors Matthäus qui va remporter l'Euro donc avec la RFA. Alors il joue très peu, hein, cela dit. D'ailleurs, d'un point de vue général, on peut résumer ces 5 ans passés à Gladbach, Polo, à Matthäus, en disant que c'est assez frustrant finalement en termes de palmarès.
Ben oui, parce que Mönchengladbach n'est plus le Mönchengladbach des années 70. Le professionnalisme est passé par là. Tu venais de citer l'Euro 80, c'est vrai. Rappelons-le qu'il le gagne à 19 ans, mais il fait banquette. Si je me rappelle bien, il est juste rentré une fois. Et puis, ce qui est difficile à percevoir aujourd'hui, c'est que le football allemand sort un nombre inconsidérable de grands joueurs dans les années 70-80, et pour faire sa place dans le football allemand, ben c'est très délicat. On sort de la Coupe du Monde 82 où le leader c'était Paul Breitner, Matthäus sera à l'Euro 84, évidemment l'un des leaders, mais c'est Norbert Meyer, le joueur de Brême, qui sera le métronome de l'équipe, et en plus comme c'est un échec l'Euro 84 en France pour la sélection allemande, moi je découvre que la RFA peut ne pas faire un grand tournoi, tu vois, par exemple. C'est un truc, c'était pas concevable dans ma conception du football. Et donc il est en période d'apprentissage, il perd, tu l'as rappelé, la finale de l'Euro contre l'Eintracht Francfort. Encore une fois, je rappelle qu'il avait blessé gravement Grabowski, le plus grand joueur de l'Eintracht, durant la saison régulière en Bundesliga, et donc son image de marque était écornée. Et puis il fallait qu'il fasse sa place, et c'est pas gagné en équipe de RFA, tellement tu vois des grands champions. Donc le Borussia Mönchengladbach n'est plus leader, gagne plus de grands championnats comme dans les années 70, mais finalement, sous Juppankes, il y a une nouvelle génération de joueurs qui est là. Ils sont troisième, quatrième, etc. Mais bon, ils ne gagnent pas de titre, c'est vrai.
Et d'ailleurs, la dernière saison de Matheus avec Gladbach, elle est hyper serrée, intense sur le plan sportif, hein, d'abord. Hein.
Alors, c'est extraordinaire cette année-là, c'est l'année 1983-84, et on a en fait trois équipes qui, alors on était à l'époque à 2 points par victoire, et on a, il y a trois équipes qui finissent à 48 points, donc Stuttgart, Hambourg et Mönchengladbach. Le Bayern ne finit à 1 point, à 47 points, et je crois que même Brême avait dû finir à 45 points. Ce qui était extraordinaire, c'est quand on voit les équipes de l'époque, et donc on est avant Larry Bosman, c'est que Stuttgart, c'est extraordinaire en défense, parce que tu as les frères Förster, donc un, Karl-Heinz ira jouer évidemment à Marseille. Tu avais Guido Burwald, l'un des plus grands défenseurs du football allemand, et comme par hasard, Stuttgart deviendra champion avec la meilleure défense. Quand tu vas à Hambourg, faut juste se rappeler qu'à l'époque, il y avait Felix Magath notamment, ou Katz, mais c'était surtout les victoires, les tenants du titre de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1983. Et puis tu as, j'ai oublié d'ailleurs le troisième, et Mönchengladbach, évidemment, avec la nouvelle génération des poulains, emmenée par Lothar Matthäus. Et quand tu vois le Bayern, qui avait Karl-Heinz Rummenigge, qui finira meilleur buteur de cette saison-là, et ben on se rendait compte ce que c'était que la Bundesliga à l'époque, et ça a bien changé. C'est-à-dire que le Bayern gagnait des titres, certes, mais n'avait pas la domination qu'on peut vivre depuis 10-15 ans.
Et alors, la dernière saison de Matheus à Gladbach est aussi très très agitée en coulisses. La saison n'est pas encore terminée, mais la rumeur l'envoyant au Bayern se fait insistante. En mars 84, le Bayern se rend à Mönchengladbach, et l'attention de tous est portée sur Lothar. Le stade est plein et les médias sont bien sûr présents.
Das Stadion ist zu klein für eine Spitzenmannschaft. Dafür ist die Atmosphäre hier umso einmaliger. Ganz besonders vor dem Dauerbrenner Borussia gegen Bayern München, der nicht nur wegen der Tabellensituation, sondern auch wegen Lothar Matthäus besonders hohe Wellen schlägt.
Il n'y en a que pour Lothar Matthäus. Gladbach s'impose 3-0. Matthäus est titulaire. Et à peine le coup de sifflet donné, les journalistes se ruent avec lui avec la question: va-t-il ou non au Bayern?
Die Entscheidung ist eigentlich noch nicht klar, aber ich bin mit Bayern München ziemlich einig und ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr in München.
Alors, il donne pas de réponse très claire, hein, Lothar Matthäus, mais il laisse entendre qu'il est très proche du Bayern. En réalité, Polo, celui qui va rendre ce match très spécial, c'est Uli Hoeness. Hein. Il va vraiment mettre de l'huile sur le feu avant ce match, ce fameux Gladbach-Bayern.
Ben oui, parce qu'en plus, on est en lutte pour le titre. Hein. On est au mois de mars, hein, donc ça a l'air de rien, mais ça va bientôt se finir. Mais en fait, cette histoire avec Lothar Matthäus, ça date déjà du mois de novembre 83, où il y a un journaliste de Bild qui suit l'agent, aujourd'hui décédé, de Lothar Matthäus, et qui se va découvrir qu'à Düsseldorf, dans un hôtel, l'hôtel Interconti, donc intercontinental de Düsseldorf, les patrons du Bayern ont rendez-vous avec l'agent de Matthäus pour justement discuter déjà de cette histoire-là. Et il va rendre publique cette affaire. Et donc, évidemment, il y aura des démentis. Donc, ce transfert qui devait être tenu le plus secret possible va empoisonner pendant plus de 6 mois la carrière de Lothar Matthäus, et va empoisonner, évidemment, les relations avec le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich. Et puis, évidemment, il y a cette rencontre très importante, gagnée par au mois de mars 84, gagnée par le Borussia Mönchengladbach à domicile 3-0. Matthäus est sur le terrain. Et par contre, tout le monde veut savoir s'il veut partir ou pas. Et en fait, Uli Hoeness était un grand spécialiste parce que, évidemment, tout ce qui pouvait embêter les autres, et on est dans la politique de l'époque, c'est-à-dire le Bayern Munich, souhaite affaiblir ses adversaires potentiels en leur piquant leurs meilleurs joueurs. Et donc, là, Uli Hoeness, qui à l'époque est manager, il n'est pas encore président, il est en train il a fait des petites déclarations en faisant comprendre que le transfert était déjà fait, qu'on était bien parti, qu'il y avait des problèmes en discussion avec le Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, dans les extraits sur ce match-là, on voit l'ancien président de Mönchengladbach qui dit « faudrait bien qu'Uli Hoeness se taise un petit peu
». Il lui dit « il n'est pas très classe ». Il dit « c'est pas
exactement.
Très classe ».
Ça, c'est Uli Hoeness, c'est un phénomène. Et donc, tout ça pour évidemment envenimer les relations entre le Bayern et le Mönchengladbach. Malheureusement, ce jour-là, les poulains vont en mettre 3 au Bayern Munich, et Jean-Marie Pfaff ira chercher évidemment le ballon 3 fois au fond de ses buts.
Et en avril 84, Lothar Matthäus s'engage officiellement avec les Bavarois, et quelques jours plus tard, il dispute son dernier match pour les Poulains en finale de Coupe d'Allemagne. Et devinez face à qui ? Face au Bayern. La décision se fait au tir au but, et devinez qui est le premier à le rater.
Gegen Matthäus.
Alors ça, mon Polo, scénario incroyable. Hein. Matthäus, il est en partance pour le Bayern. Il rate son tir au but face à ce même Bayern qui remporte la Coupe d'Allemagne à l'issue de cette séance. Et alors ça, ce tir au but, il va faire couler de l'encre, mais alors pendant des années, Polo.
Alors c'est quand même, c'est complètement fou parce que depuis les rumeurs de départ de Matheus au Bayern, il y a un mot qu'on entend beaucoup dans les travées du stade du Borussia, c'est évidemment Judas, Judas, et il y a même des journalistes qui écrivent des choses extraordinaires qui disent ce jour-là, c'est le jour où tous les Allemands ont compris ce qu'était un Judas dans le dans la dans le dans le dans la Bible. Et en fait, c'est ce mot, c'est devenu un ferretteur, un traître. Lui, il dit moi ce jour-là, je suis devenu un transfuge, je suis devenu un transfuge. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il voulait pas tirer le penalty. On a plus ou moins forcé la relation avec Jupp Heynckes. C'était dégradé depuis déjà plusieurs mois à tel point que Jupp Heynckes, bah parfois le mettait sur le banc et lui pour lui donner la leçon, tout simplement, ce que c'est que le professionnalisme.
Mais pourquoi c'est devenu tendu entre les deux? Parce que tu disais, c'est une relation père-fils finalement.
Alors ouais, bah, déjà parce que le Borussia Mönchengladbach voulait absolument prolonger Matheus. Il y a même des rumeurs comme quoi Jupp Heynckes avait dû mettre de l'argent propre de son propre coffre, comme on dit, pour qu'il ait un super contrat. Et lui, il était déjà, dans sa tête, il était déjà parti. Apparemment, le Bayern avait fait des offres beaucoup plus intéressantes. Mais n'oublions pas quand même que Matheus, il est né en Bavière. Et vous savez, c'est un peu comme Mario Götze lorsqu'il est reparti de Dortmund en Bavière. Si on te propose le FC Bayern, faut y aller. Et je pense que Matheus aussi, c'est pas que c'était une victime, mais il est un peu le produit déjà du football qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on va là où c'est le mieux, on va là où on peut gagner des titres. Or, le Borussia Mönchengladbach, malheureusement, et même si c'est encore une fois des très belles équipes à l'époque, n'avait pas la possibilité d'attirer ou de conserver un joueur comme Lothar Matthäus. Et donc, en fait, il s'est senti, Jupp Heynckes s'est senti trahi par Lothar Matthäus à ce niveau-là. Maintenant, voilà, il y avait des joueurs, il y avait un joueur de Mönchengladbach qui s'appelle Linen, qui est très connu aujourd'hui. Il est parti du côté de St. Pauli. Et puis aujourd'hui, il est à la retraite, il a quitté son poste, qui était quelqu'un qui était connu pour être très, très à gauche à l'époque et qui faisait comprendre que dans tous ses transferts, les multinationales étaient déjà en train de tuer le foot, c'est-à-dire tous les débats qu'on a aujourd'hui ou depuis quelques années, déjà à l'époque tu sentais que ça commençait à arriver. Alors il fait un transfert de 2,5 millions de Deutsche Mark, ce qui pourrait faire rigoler aujourd'hui parce que c'est 1,2 million d'euros, mais si tu veux, pour l'époque c'est énormissime ce genre de somme parce qu'il n'y a pas encore l'argent qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ce match de 1984 qui était un match qui avait été reporté et donc on avait joué au mois de décembre, c'est le premier match qui passait en entier à la télé allemande.
Ouais. D'ailleurs c'était un gros événement. Et d'ailleurs, exactement, dès la prise d'antenne, c'est anglais sur Lothar Matthäus. Et d'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser, mais quand il arrive au Bayern, là, ça y est, c'est devenu une grosse star. En plus, il remplace Rummenigge qui est parti à l'Inter. Il a un salaire colossal. Tu parlais du transfert, mais il y a le salaire qui va avec aussi. Là, ça y est, il a un autre statut, Matthäus.
Oui, sauf que sur le terrain, ça ne se voit pas encore. C'est-à-dire que sa croissance va être relativement lente par rapport à d'autres grands champions. Et on en revient à ce qu'avait dit Bertie Fuchs sur lui. C'est-à-dire que, encore une fois, il se prend pour le général, mais on oublie les stars qu'on avait à l'époque. Et tu as tout à fait raison. À l'époque, d'ailleurs, le Bayern Munich a des problèmes financiers. C'est pour ça que l'Inter va sauver quelque part financièrement le Bayern Munich en récupérant Rummenigge. Et puis, tu as des journalistes qui disent, là, c'est vraiment intéressant dans le jeu. Alors, le grand boss à l'époque, c'est Hugen Thaler, le patron de la défense. Tu as Dieter Hönes en attaque, évidemment, qui est le frère d'Uli Hönes, comme par hasard. Et tu as, Lothar Matthäus, qui est là un petit peu pour devenir le grand métronome qu'on va vous voir par la suite. Mais encore une fois, en 1984-85, même s'il va gagner en 85-86-87 le championnat, la Bundesliga, c'est un peu ce qu'il disait toujours. Il disait, moi, je suis désolé, j'ai rien gagné à Mönchengladbach, mais quand je vais commencer à gagner, c'est quand j'irai au Bayern. Le Bayern m'a permis de gagner des titres. Mais ce qu'on oublie encore une fois, c'est que sa croissance est assez lente, c'est-à-dire qu'il n'est pas le joueur indiscutable, même si certains journalistes se disent, avant, on déponnait trop de Karl-Heinz Rummenigge, donc Ballon d'Or 80-81, et là, on se rend compte qu'il y a une véritable équipe. Avec Soren Lerby, c'est même ne fait pas défaut, des joueurs comme ça. Et si tu veux, petit à petit, il va devenir le leader, mais ce n'est pas encore le grand leader qu'on aura par la suite.
Et alors, quelques mois après cette fameuse finale de Pokal, où donc Matthäus rate son tir au but face à son futur club, c'est le grand retour de Lothar Matthäus à Mönchengladbach avec le maillot du Bayern. On est en décembre 84, le Bockelberg-Stadion est blindé de monde, et chose exceptionnelle à cette époque, tu le disais mon Polo, ce choc entre Gladbach et le Bayern est diffusé à la télé en direct.
Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, ein immer wieder junger Schlager in der Fußball-Bundesliga. Heute mit einer besonders pikanten Note, denn Nationalspieler Lothar Matthäus am 31. Mai noch in Diensten von Borussia Mönchengladbach beim Pokalfinale. Heute bei seinem ersten Auftritt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Et alors ça, c'est la prise d'antenne hein, du journaliste qui est dans les tribunes d'ailleurs avec les supporters. Et alors ce qui est fou, c'est que ce qui intéresse Polo, c'est même pas tant l'affiche, c'est le retour justement de Matheus à Gladbach, quoi.
Ben bien entendu, c'est la première fois, comme on dit, que son ancien patron, celui qui le payait, ben il le reçoit. Et en fait, pendant toute la rencontre, tu vas voir Matheus qui va se faire siffler systématiquement. Et donc,
On va l'écouter maintenant. Regardez, écoutez ça. Dès les premières minutes de la rencontre, hein, il va vite comprendre à Matheus qu'il n'est pas le bien revenu chez son ancien lui d'ailleurs, chez lui.
Lothar Matheus, dem heute natürlich aus ganz vielen Gründen das besondere Interesse gilt. Hier sehen Sie ihn nochmal. Lothar Matheus, den Sie hier mit Judas Sprechchören empfangen haben.
Voilà, Matheus sifflé, traité de Judas par une partie du public de Gladbach, relate le commentateur du match. Il y a vraiment une haine hein, finalement autour de lui à ce moment-là.
Bien entendu, puis il représente ensuite celui qui a trahi. Alors pour moi, il y en a deux. Hein. Il y a Andreas Müller, évidemment, et lui. Il représente, il faut pas oublier ce que c'est que le duel des années 70 entre le Borussia Mönchengladbach et Bayern Munich. Jamais dans l'histoire du football allemand, jamais, je dis bien, un duel entre deux clubs a eu autant de divergences. En gros, je le dis d'une façon très simple, vous étiez de gauche, libéral, vous étiez du côté du Borussia Mönchengladbach, vous êtes de droite, vous êtes du côté du FC Bayern. Et vous avez, le beau jeu, il était fait à Mönchengladbach, les victoires cyniques, entre guillemets, elles sont du côté du Bayern Munich. Et il y avait des joueurs qui disaient des choses extraordinaires, ils disent, dans notre football à nous, c'était pire que la séparation entre la RFA et la RDA. Tu ne pouvais pas être... Il fallait que tu sois d'un côté. Tu ne pouvais pas être les deux en même temps. Et Matheus, évidemment, a décidé de partir en Bavière. Donc voilà, c'était un petit peu délicat pour lui.
Alors justement, parce que tu le dis, hein, c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent, mais il y avait une forte rivalité sportive et pas que sportive entre le Bayern et Gladbach à cette époque-là. Et il y en a un qui finalement va incarner ça.
Ich erwarte nicht viel von dir. Ich erwarte nur Respekt von dir, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung. Ja. Und die werde ich auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Ne?
Aber ihr kritisiert oft Dinge.
Ich möchte das Pauschalurteil. Ihr
auch du,
möchte ich auch ich, aber nicht ihr.
Eben nicht immer akzeptiert hast.
Da musst du ganz ruhig sein, Uli.
Ja, okay.
Voilà, extrait de la mythique émission allemande Doppel Pass que tu adores, hein, Polo, dans laquelle Uli Hoeneß et Udo Lattek s'embrouillent. Deux légendes du foot allemand en pleine joute verbale. Alors pourquoi Udo Lattek ? Parce que Polo, il est finalement l'incarnation de cette rivalité Bayern-Gladbach. Hein.
Bah oui, parce que alors il faut rappeler qui est Udo Lattek. C'était pas un grand joueur, mais c'est le coach qui a gagné 8 titres en Bundesliga, 6 avec le Bayern, 2 avec le Borussia Mönchengladbach. Il n'était pas considéré comme un grand tacticien, plutôt comme un conservateur. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est quand le Borussia Mönchengladbach va le récupérer après ses succès en Bavière, il va faire gagner le Borussia Mönchengladbach, mais avec un style non plus flamboyant du début des années 70, mais avec la nouvelle génération. Notamment avec Stilicke, ils vont être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus cyniques pour gagner le championnat. Donc, ils gagnent aussi la Coupe d'Europe des clubs champions, donc l'ancêtre de la Ligue de la Champions League en 1974, donc contre l'Atlético de Madrid avec un match à rejouer avec une égalisation lors du premier match à la 94e minute qui fera couler beaucoup d'encre. Et si tu veux, il est toujours. C'était intéressant parce que la traduction qu'on fait, il dit moi, je suis plus embauché. Je suis pas ton salarié, maintenant je garde ma façon de penser, etc. Et donc ils s'engueulent, alors que ça les empêche pas au bout de se retrouver d'ailleurs autour d'une bière beaucoup plus tard. Mais ça fait partie de l'émission Doppel Pass. C'est le personnage d'Uli Hoeneß, c'est Udo Lattek, encore une fois, qui a un palmarès extraordinaire, qui partira d'ailleurs, qui partira aussi je confonds avec Vesveler. Mais ça, c'est un autre débat. Et là, en fait, Udo Lattek, on voit l'opposition. Mais ce qui est important, c'est que cette émission, elle a lieu en 2002. Et en fait, c'est parce que Uli Hoeneß, dès qu'on attaque le Bayern Munich, il se défend et il critique Udo Lattek, qui ne fait plus partie, entre guillemets, de la famille bavaroise. Mais c'est vrai qu'Udo Lattek, et c'est un coup qui était extraordinaire fait à l'époque par le Borussia Mönchengladbach, c'est qu'ils vont le récupérer pour à nouveau gagner des titres dans les années 70. Et ça, c'est un petit peu, ça fait partie de la légende. Et c'est pour ça que je dis parfois à l'antenne que le vrai classiqueur en Allemagne, c'est pas entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, c'est entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich.
Alors justement, j'allais y venir à ça, parce que alors on va dire en rivaux sportifs, le Bayern, ils ont eu Hambourg, ils ont eu Kaiserslautern, Leverkusen, le Werder dans une moindre mesure. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire Dortmund là depuis des années, mais le premier, le rival historique finalement du Bayern, c'est Gladbach alors.
Ah bah c'est très clair, c'est les années 70. Mais en fait, si tu veux, chaque année, déjà, rappeler que lorsque la Bundesliga a été créée en 1963, qui donnera donc son premier titre en 1964 avec Cologne, il y avait quasiment chaque année un champion différent. Et les premiers qui ont commencé à gagner tout le temps, eh ben, c'est le Borussia Mönchengladbach avant le Bayern Munich. Or, on est dans les années 70. Lorsque Mönchengladbach ne gagnait pas, eh ben, c'était le Bayern Munich. Donc, 5 titres pour Mönchengladbach, 4 pour le Bayern Munich, mais 3 Coupes d'Europe des clubs champions pour le Bayern Munich alors que Mönchengladbach n'y arrivera pas, etc. Et donc, il y avait une véritable rivalité. Il y a eu deux générations de poulains, des Follons, de jeunes, parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et donc on s'opposait entre les deux, alors qu'Uli Hoeneß, lui, avait bien compris comment le marché allait évoluer et donc lui, il cherchait toujours du financement pour développer son équipe, où il avait encore une fois mis en place sa stratégie d'affaiblir les autres pour essayer de conserver au minimum sa domination nationale. Il y a cette opposition entre Mönchengladbach et le Bayern, et j'ai jamais vu ça dans le football allemand. Je sais même pas où ça existe politiquement, si ça existe politiquement, religieusement, dans certains pays, mais moi, c'est extraordinaire la façon dont on en parle encore aujourd'hui, aussi parce que les Allemands raflaient tout. Hein, Coupe du Monde 72, Coupe du Monde 74, pardon, Euro 72, finaliste de l'Euro 76, victoire de l'Euro 80, etc. Bon, et puis ils avaient des titres aussi en Coupe d'Europe, donc le football allemand trônait avec les Anglais. D'ailleurs, oui, les Allemands sont en tête du fameux classement UEFA entre 1976 et 1984. Et comme par hasard, 1984, c'est là où Lothar Matthäus part de Mönchengladbach, et c'est presque un fait la fin de l'apothéose du football allemand, on va dire, de ces années-là, qui va être remplacé par la suite par le football italien.
Alors, un autre moment va attiser un peu plus cette rivalité entre Gladbach et le Bayern. Il y a quelques années, lorsqu'on a demandé à Lothar Matthäus quels avaient été les moments les plus marquants de ses 12 ans passés à Munich, voilà ce qu'il a répondu.
Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, da musste Werder Bremen in Stuttgart verlieren und wir mussten gegen Gladbach gewinnen, um Meister zu werden. Das ist auch dann so passiert. Bremen hat in Stuttgart 2-1 verloren und wir haben 6-0 zu Hause gegen Mönchengladbach gewonnen.
Alors Matthäus répond qu'il y a deux moments au final, ces deux titres qui ont été remportés lors de la dernière journée, dont celui de 86, qui s'est joué dans un duel à distance entre le Bayern et le Werder. Et au cours de cette dernière journée, le Bayern a explosé Gladbach, l'ex de Matthäus, 6-0. En fait, c'est comme si Matthäus était condamné à faire souffrir Gladbach, Polo.
Un petit peu, mais c'est aussi tout simplement que le Borussia Mönchengladbach ne peut plus suivre financièrement. On l'oublie, mais Mönchengladbach, c'est une petite ville de province qui est dominée par Cologne au niveau de la population et qui a des problèmes économiques, un petit peu comme il y a eu dans la Ruhr, donc ils sont un peu à la limite, un peu en dessous. Et donc, il y a beaucoup de chômage, etc. Tu parlais du Böckelberg, l'ancien stade, qui est un stade mythique en Allemagne, mais il était trop petit à l'époque, il a fallu construire un nouveau stade, etc. Ça a pris du temps. Et donc, oui, évidemment, Lothar Matthäus est en train de faire comprendre qu'il a fait le bon choix en partant au Bayern Munich, et il écrase le Borussia Mönchengladbach, qui petit à petit va rentrer dans le rang du football allemand, au point même de descendre plusieurs fois en seconde division.
Est-ce qu'il est toujours détesté à Gladbach aujourd'hui, Lothar Matthäus ?
On va dire qu'il est pas aimé spécialement, quoi. Alors lui, évidemment, lorsqu'il fait ses chroniques ou lorsqu'il est parce qu'il est consultant chez Sky et qu'il en parle, il y a un affect très particulier chez lui, mais voilà, moi il est le mais c'est très spécial Matthäus, parce que c'est un phénomène médiatique, c'est quelqu'un, moi bon, je trouve qu'il s'exprime pas énormément, mais il a une arrogance, une morgue qui est là de tous les instants, on va dire dans la grande tradition des joueurs allemands des années 70-80, hein, qu'on revient avec Paul Breitner avant, ou Rummenigge ou d'autres, hein, c'est pas la question. Et si tu veux, il est donc déjà c'est quelqu'un qui est très très à droite, ça se sent dans sa façon de s'exprimer par rapport à des sujets de société, et donc forcément bah, il se coupe avec une partie du public. Il est devenu le grand joueur qu'on connaît, mais sur le tard. Et donc à Mönchengladbach, évidemment.
Après, il a fini très tard aussi. Donc
Mais c'est justement ça qui est passionnant chez Lothar Matthäus, c'est que en fait, le football allemand va le reconnaître le jour où il va avoir son ballon d'or en 1990. C'est la première fois qu'il sera élu meilleur joueur allemand aussi. C'est le titre chaque année où on le donne. Et en fait, il va le gagner à deux reprises, en 1990 et en 1999. Donc la première fois à 29 ans, la deuxième fois à 38 ans. Et tu sais très bien ce qui s'est passé à l'Euro 2000. Ça a été une dramatique pour lui. La sélection nationale va faire un bide à l'Euro 2000. Et donc, il mettra fin à sa carrière à ce niveau-là. Donc c'est sa longévité qui est impressionnante. C'est le fait qu'encore une fois, Mönchengladbach, il est dans une phase de progression, que lorsqu'il arrive au Bayern, il va petit à petit devenir le grand métronome de la sélection allemande à partir de 87, où on lui donnera le capitana, mais aussi au Bayern Munich en 88. Mais surtout, il va devenir le grand Matthäus. Il va aller là où ça se passe le mieux, c'est en Italie, à l'Inter notamment, parce que c'est à lui tout seul qui gagne le titre 89, si je me rappelle bien. Et puis après la Coupe du Monde 90, où il gagnera le Ballon d'Or. Mais Matthäus, c'est quelqu'un d'extrêmement clivant, encore une fois, la façon dont il s'exprime, la façon dont il méprise les médias, la façon. Moi, je l'ai rencontré en France, d'ailleurs, j'ai eu des discussions avec lui. Bon, ben, c'est le grand champion qui parle, quoi.
Ouais, ouais. Eh ben merci beaucoup mon Polo, merci beaucoup, passionnant ce podcast sur Lothar Matthäus, donc le Figo allemand finalement, parce qu'on vous rappelle, hein, c'est le doc Netflix sur Figo qui nous a inspiré ces épisodes. On va en faire un sur Roberto Baggio avec Johan Crochet également très bientôt, avec pour fond la rivalité entre la Fiorentina et la Juve. Merci Polo en tout cas.
Merci beaucoup.
Voilà, on remercie le Becherel également, parce qu'on a pas mal massacré la langue française aujourd'hui, on a pas mal fourché toi et moi mon Polo. Mais ça c'est le direct mon Polo,
on voyage
sans filet. Merci Jimmy Brown et Jérôme Thomas à la production, merci Sylvain Kemener à la réalisation. On se laisse avec un tube de 1999 réalisé par Die Fanastischen Zwei, ayant pour titre Lothar Matthäus. Vous allez voir, c'est un délire. Bisous, prenez soin de vous.
After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.